jusqu'à 19h. Cap Sport.
Le Brésil, le Costa Rica et la Serbie, ce sont les trois pays que l'équipe de Suisse de football affrontera au premier tour de la Coupe du Monde qui se tiendra en Russie dès le 14 juin. Le tirage au sort des groupes a eu lieu il y a quelques heures. Alors, un bon ou un mauvais tirage pour la Nati? La qualification pour les huitièmes de finale est-elle déjà dans la poche? Autant de questions que l'on va se poser ce soir en compagnie de l'entraîneur Bernard Chaland et de notre spécialiste maison Mathieu Schaffner. Mais avant cela, un sportif de marque nous a rejoint, le champion des Bugnonnais, le roi de Kitzbühel, surtout Didier Kuch, bien évidemment. Quel est le potentiel du ski suisse en cette année olympique? Didier Kuch, qui s'implique aussi pour la relève dans le giron jurassien, nous livrera son analyse. Bonsoir et bienvenue dans Cap Sport. Didier Kuch n'est pas le seul à avoir chaussé ses lattes aujourd'hui. Marcel Neuenschwander est à mes côtés également pour animer cette émission. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Didier, merci tout d'abord d'avoir accepté cette invitation. Une première question, elle est toute simple. Didier, actuellement, comment se porte le retraité devenu retraité du ski, précisons-le, devenu père de famille?
Eh ben, très très bien, ça occupe bien un petit bout de chaud qui aura bientôt 2 ans, le 4 décembre.
Quel regard portez-vous sur le circuit blanc? Plutôt dans un premier temps, est-ce que vous vous y intéressez encore beaucoup?
Oui, il n'y a pratiquement pas de course que je rate. Je les regarde avec le replay si je les ai ratées. Et je suis toujours fasciné par ce sport et j'ai un œil très, très critique et très passionné.
Et vous avez encore beaucoup d'engagement en relation avec le ski, en relation avec cette Coupe du Monde?
Ça restera que des saisons qui sont liées avec, avec du travail en lien direct ou indirect avec le ski. Et c'est bien comme ça puisque j'adore encore skier.
C'est une saison olympique, hein. On va se pencher sur le potentiel du ski suisse et aussi de sa relève. Alors, côté féminin, Didier, le ski suisse dispose d'une leader très charismatique, à savoir Lara Gut, mais ce serait faux de se focaliser uniquement sur la tessinoise. Wendy Holdener, notamment, dispose également d'un sacré potentiel.
Je pense que Wendy, son but en ce moment, c'est peut-être ce qui lui a coûté sa dernière sortie de piste lors du slalom. C'est qu'elle n'a pas seulement envie de terminer deuxième derrière Schifrin, elle a envie de battre Schifrin. Et là, Schifrin était chez elle, c'était pas facile, elle a eu beaucoup d'avance, mais je crois qu'elle en est capable et elle a ça au bout des spatules. Et on le voit dans son style de ski, c'est une fille qui en veut. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que Lara Gut dans cette équipe. Et je pense spécialement sur cette année, on peut s'attendre à Lara Gut qu'elle fasse des jeux avec une médaille au bout. Mais elle revient de blessure, il faut savoir s'engager, lâcher les chevaux, décrocher le frein à main qui a tendance inconsciemment à rester un petit peu croché après une blessure comme ça.
Justement, est-ce que Lara Gut va réussir à revenir à son meilleur niveau? C'est tout à fait dans ses cordes. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Des doutes. Elle a un énorme potentiel, donc elle peut compenser. Ça prouvera dans le courant de l'hiver quel est son niveau. Si elle est maintenant toujours dans les 10 premières assez facilement, elle sera à sa place au retour d'une blessure. Mais dans sa tête, elle a envie de remonter sur le podium le plus vite possible. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner sur les disciplines de vitesse, puisqu'en géant, pour le moment, ça n'a pas trop bien marché. Mais en géant, c'est peut-être la discipline qui demande un peu plus de temps et de confiance pour revenir d'une blessure.
Il faut beaucoup de temps pour se remettre d'une blessure telle que les ligaments croisés, déchirure des ligaments croisés.
Alors, il y a l'aspect physique qui demande de toute façon, je pense, à mon avis, entre 1 année et 2 ans pour pratiquement arriver à effacer tous les déficits de force, d'explosivité et retrouver ses sensations d'avant. Et psychologiquement, ça peut dépendre d'une bonne perf, d'un podium qui revient tout à coup un peu presque d'une façon inattendue. Mais ça peut aussi durer une saison complète. Ce qu'il faut, c'est pas en vouloir trop. Et avoir des objectifs réalistes et réalisables, pas seulement se dire ok, je vais aller chercher un podium alors qu'on n'est peut-être pas forcément encore dans les conditions d'aller chercher. Ça peut être crispant, puis avoir un effet un peu inverse et un retour de manivelle.
On a l'impression que cette déchirure des ligaments croisés du genou, c'est inévitable pour un skieur. On doit passer par là, non pas pour réussir, mais on doit passer par là.
C'est presque inévitable, il y a très peu d'athlètes à mon sens. Je connais que Marco Buchol qui a pas eu de ligaments croisés. Et certains, comme moi aussi, mes différentes blessures m'ont fait évoluer, m'ont presque parfois amené, avec une année de recul, un peu plus loin que ce que j'étais avant. Je me serais bien passé de ça, mais je ne pourrais pas vous dire si ça aurait marché avec ou sans. Mais c'est vrai que c'est presque inévitable d'avoir ce genre de blessure sur une carrière.
Il y a des blessures, Didier, parfois plus tragiques, hein, comme celle qui est survenue à David Poisson. Vous aviez envie de dire quelques mots à ce propos, parce que dès le moment où il y a un accident mortel en ski alpin de compétition, on cherche peut-être parfois trop rapidement des coupables.
C'est sûr qu'on cherche de toute façon un petit peu le pourquoi du comment. C'est quelque chose d'inadmissible, finalement, ce qui est arrivé. Il a chuté dans un endroit où c'est sécurisé, mais c'est certainement pas sécurisé, puisque j'ai skié sur ces pistes là où il est décédé, où il a chuté. C'est pas autant sécurisé que sur la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, le risque zéro, il n'existe pas, mais c'est sécurisé à 99,9%. Et là, c'est des choses fatales qui arrivent. Mais dans l'ensemble, un athlète prend beaucoup plus de risques sur les 6-7 mois de préparation pour ces 3-4 mois d'hiver, parce que la piste, elle n'est jamais autant bien sécurisée que sur la Coupe du Monde.
Et de cela, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. Hein.
On ne s'en rend pas forcément compte. C'est pour ça que des fois, ça fait un peu mal quand la critique est des médias. Peut-être au début de ma carrière, j'avais du mal à accepter ça, puisque soit on n'est pas assez volontaire, soit on ne prend pas assez de risques, soit on est des tirs au flanc quand le résultat n'est pas là. Puis finalement, les risques, ils sont les mêmes pour celui qui va une seconde moins vite ou deux secondes moins vite que le vainqueur. Même parfois, le vainqueur prend moins de risques parce qu'il est plus en confiance.
Didier, je vous propose peut-être de nous pencher dans la relève du ski suisse, parce qu'elle existe, notamment côté féminin, avec Mélanie Meillard. Mélanie Meillard et Loïc Meillard, qui sont à l'origine neuchâtelois, mais ils ont déménagé depuis longtemps en Valais avec leurs parents pour mieux s'entraîner. Est-ce qu'aujourd'hui, un jeune skieur de l'arc jurassien a aucune chance de réussir en restant ici? Il faut aller du côté du Valais, c'est une obligation?
Alors surtout pas, et c'est l'infrastructure qui a été mise en place depuis maintenant 2009. Il y a toujours eu le cercle de l'arc du Giron-Girassien qui mettait des possibilités de s'entraîner à disposition, mais maintenant on est devenu quasi des professionnels depuis 11 à 15 ans, pour les jeunes de 11 à 15 ans, où les programmes d'école sont faits pour avoir des libertés d'entraînement au niveau du ski, au niveau de la préparation physique. S'il n'y a pas de neige ici, les jeunes ou le staff regroupent deux après-midi pour faire une journée à l'extérieur pendant la semaine. Les week-ends, c'est soit ici, s'il y a la neige, s'il n'y a pas la neige. De toute façon, les cours sont déplacés ailleurs. Donc, je pense que depuis maintenant 2009-2010 que ce projet est né, on est dans les mêmes conditions et les mêmes possibilités pour arriver au succès. La preuve, c'est les 5 jeunes qui sont au centre national à Brigue maintenant, donc ça veut dire qu'ils ont passé l'étape d'après, c'est après 16 ans, c'est l'antichambre des 4C de Suisski, et le but est de passer dans les 4C de Suisski, puis ça se représente à peu près une vingtaine de jeunes, que ce soit filles ou garçons, qui sont les meilleurs de Suisse, donc... Et là, ils sont en train de lutter dur, de cravacher dur entre 16 et 20 ans pour essayer d'y arriver.
Précisément, ce centre national de Brigue, Didier, à votre époque, il n'existait pas. Alors, s'il avait existé, vous auriez progressé plus ou plus rapidement, peut-être?
Il n'existait pas vraiment sous cette forme, mais ça s'appelait l'Interrégion Ouest, toute la Romandie. Ça regroupait les meilleurs de chaque région de ski. Et ça faisait un groupe de 12, 15 jeunes. Moi, j'étais juste un peu derrière. J'étais dans le ventre mou, on va dire. Jamais vraiment devant, jamais vraiment derrière. Et c'est plus sur les années que j'ai progressé petit à petit, puis que j'ai passé l'épaule. Mais je pense que c'était le pendant de l'époque. Et c'était pas possible d'avoir ça à l'époque. Et maintenant, je pense qu'avec ce que j'avais avant, ce serait plus possible de vraiment rivaliser autant bien avec les autres, même si on a des jeunes qui font leur apprentissage ici, mais qui sont dépendants du programme et qui suivent quasiment à 95% le même programme que le reste de l'équipe qui est sur place à Brigue.
Moi, j'ai envie de vous dire, un champion, il se fait tout seul, peu importe l'encadrement. Enfin, il faut quand même un bon encadrement, mais un champion, il se fait quand même tout seul, à un moment donné.
Alors, il faut avoir la tête, il faut avoir la motivation, mais par contre, il y a vraiment... À tous les âges, à toutes les époques, il y a énormément de monde autour des enfants qui skient, autour des adolescents qui suivent leur passion, puis finalement des adultes qui arrivent en Coupe du Monde. Il y a un nombre incroyable de personnes qui mettent leur petite pierre à l'édifice.
Didier Cuche, vous avez deux neveux qui font du ski de compétition. Rémi Cuche, qui a justement intégré la structure de formation du Centre National de Brigue, et Robin, qui lui est devenu l'an dernier vice-champion du monde de super combiné de ski handicap. Robin Cuche, qui est justement à l'interview, c'est le coup de fil de Noémie.
Je suis dans l'équipe suisse paralympique depuis maintenant plusieurs années. Et chez nous, on se spécifie pas tellement dans une discipline ou l'autre. La plupart des concurrents font toutes les disciplines et je fais toutes les disciplines.
Quels sont vos objectifs avec des Jeux paralympiques justement qui approchent ?
Alors déjà, c'est de se qualifier parce que ça, c'est encore loin d'être fait. Et une fois qualifié, ce serait si possible de ramener un diplôme et si tout se passe bien, peut-être une médaille.
Est-ce qu'il y a un bon soutien financier et infrastructurel ?
On est soutenu par Plus Sport pour moi, vu que je suis un athlète debout. Et les personnes en fauteuil roulant sont soutenues par l'Association suisse des fauteuils roulants. Et au niveau financier, oui, parce que je suis dans les cadres nationaux. Donc oui, il y a un apport financier derrière, malgré qu'il n'y ait aucun lien avec Suisse-Ski.
Pour en revenir à Didier, est-ce que c'est lui qui vous a donné envie de faire du ski ?
Oui, c'est clair, quand on voit son oncle à la télé comme ça, et puis être tout devant dans les classements, c'est super. Mais j'ai fait du ski aussi pour moi et pas forcément pour être au top niveau comme mon oncle. Et voilà.
Et quand ça a commencé à devenir plus que juste une passion qu'on fait l'hiver, le ski pour vous, est-ce qu'il vous a donné des conseils ou est-ce qu'il vous en donne encore maintenant ?
Il essaye de pas trop prendre une place énorme dans notre carrière, car on a quand même des coachs qui sont là pour ça, mais il nous aide par rapport au matériel, vu que je suis sponsorisé par le même matériel que lui était, par Ed. Et il nous aide beaucoup par rapport aux chaussures, quand il y a quelque chose qui fait mal, il vient vite avec sa fraise, il nous aide pour essayer de pousser les chaussures pour plus qu'on ait des douleurs. Mais sinon, il essaie quand même de rester un peu de son côté, mais il nous demande quand même comment ça va, si c'est tout cool et comme ça.
Quand on se lance dans le ski et qu'on s'appelle Cuche, c'est un avantage ou c'est un inconvénient ?
Alors ça, je pense que ça dépend. De mon côté, moi qui fais du ski paralympique, ça a été quelque chose qui a été pris très positivement. Voilà, comme ça, oh, c'est trop cool, ton nom c'est Didier Cuche, comme ça. Mais d'un autre côté, mon frère qui est dans le circuit valide dans les centres nationaux, pour lui, les autres lui mettraient un peu la pression comme quoi, voilà, il s'appelle Cuche et il doit finir devant un peu dans les courses. Mais de mon côté, ça va bien.
Didier Cuche, que vous inspire cette interview ?
Ouais, je reconnais bien Robin, là, il est fidèle à lui-même. Et quand il parle de la fraise, c'est un petit peu comme si je ramène ma fraise, mais c'est vraiment une fraise pour enlever les points de pression dans les chaussures de ski.
Vous êtes aussi maniaque avec lui que vous l'étiez avec vous pour les souliers ?
Ben, les chaussures, c'est super important. Bon, heureusement, Robin, il a moins de problèmes que Rémi. Il y a plus de travail à faire sur les chaussures à Rémi, mais il n'y a rien de tel que des douleurs pour bousiller une journée de ski. Ces chaussures sont tellement près du pied qu'ils ont tendance à faire facilement mal s'ils ne sont pas vraiment peaufinés dans les détails.
Intéressant aussi l'analyse de Robin qui précise qu'il y a parfois des noms difficiles à porter. C'est une réalité, à votre avis, ça peut être difficile à porter d'être le successeur entre guillemets de Didier Cuche pour votre neveu.
J'imagine que ça peut être une source de pression, même sans forcément être pris pour des commentaires où on met la pression directement, mais simplement le fait de relever que c'est le neveu de. Ça peut être pesant au bout d'un moment, mais j'espère qu'ils en retirent plus de fierté que de pression. Et puis je crois qu'ils ont un caractère bien trempé, ils savent où ils veulent aller, ils sont motivés et engagés à fond. Donc voilà, je pense que ceux qui ont donné la plus grande impulsion, c'est les parents au niveau du ski. Et moi, ça a peut-être été plus visuel parce qu'ils ont regardé les courses, ils sont venus depuis tout petit suivre les courses avec mon frère Alain. Et je pense que c'est tout le mérite revient à mon frère Alain de leur avoir mis une bonne base dans les pieds lors des premiers mètres de ski.
Quel regard vous portez justement sur le ski handicap et peut-être d'une manière plus générale sur le sport handicap ? C'est différent, comment vous le jugez ?
Alors,
Parce qu'on sait très bien qu'on ne pourra jamais au ski handicap gagner la course de Kitzbühel par exemple.
Alors, il faudra en organiser une, et je suis persuadé qu'il y en a quelques-uns qui auraient le courage d'y descendre, et beaucoup qui aimeraient peut-être aussi la faire. Mais je crois que la perception de l'extérieur, elle est peut-être différente pour nous. Entre eux, on sent qu'ils se sentent dans leur monde, qu'ils sont à fond dans leur truc. Et puis, dès qu'on est à l'intérieur, on se rend compte que, handicap ou pas handicap, c'est les mêmes. Ils veulent gagner, ils ont la hargne et ils essayent vraiment de battre l'autre. On est potes avant le départ, mais après, on y va, on se balance dans le parcours. Donc il n'y a pas grande différence finalement dans l'état d'esprit après.
Des parcours qui parfois sont plus compliqués pour réussir, pour y parvenir, hein, parce que précisément pour votre neveu, ce n'était même pas évident au début de monter sur des skis.
Ça n'était pas évident du tout. Grand mérite aux parents qui ont continué d'y croire. Et puis, je crois que maintenant, aux dernières fois que j'ai discuté avec le papa, il faut qu'il s'accroche pour suivre Robin quand ils vont skier en libre.
Un dernier mot peut-être, Didier Cuche, on n'en a pas encore parlé sur les skieurs suisses et non pas seulement sur les skieuses helvétiques, on en parlait tout à l'heure. La victoire de Beate Feuth lors de la première descente de la saison a marqué les esprits?
Marqué les esprits par la manière, il a un toucher de neige incroyable. Moi je l'appelle personnellement Magic Feet, pied magique. On a l'impression qu'il ne fait pas d'effort, qu'il est frais comme une rose en bas. Il ne soulève pas de neige, il est très doux quand il passe d'une quart à l'autre au déclenchement. Observez ce genre de choses quand il descend. Et on sent qu'il est à l'aise. Lecluy, c'est pas forcément. Il a été une fois juste quoi, deuxième derrière moi très vite dans ses premières courses qu'il a fait avec Lecluy. Mais après, il a un peu eu du mal, comme moi j'ai aussi eu du mal. Et pour moi, c'est la preuve. Au moment où on gagne, on peut gagner Lecluy. Ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne tout à l'heure Beaver Creek. Pour moi, c'est le favori de la saison par rapport au globe de cristal de descente. S'il n'y arrive pas de bricole et pas trop de mésaventures, il sera super régulier et il ne sera pas possible à aller chercher.
On espère pour lui aussi une médaille olympique. C'est encore une autre affaire. Hein.
Ça, c'est une autre affaire. C'est une course d'un jour. Ça joue parfois ou très souvent des tours aux favoris. Et il y a d'autres qui tirent les cartes du jeu puis qui vont gagner.
Didier Cuche, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. J'imagine que vous chaussez encore les skis. Les Bugnonnais, c'est bientôt ouvert?
Ça ouvre demain, je crois. Les petits téléskis ouvrent demain. C'est blanc, c'est magnifique à voir. Et il fait un peu frais, mais c'est sympa.
Cap Sport.
Et il est temps de passer maintenant à notre deuxième partie, c'est le football. L'équipe de Suisse connaît donc les trois adversaires qu'elle affrontera au premier tour de la Coupe du Monde en juin prochain. Le tirage au sort des groupes a eu lieu cette fin d'après-midi. La formation de Vladimir Petkovic commencera par affronter le Brésil le 17 juin. Elle en découdra ensuite avec la Serbie le 22 juin et le Costa Rica le 27 juin. On va décrypter un peu ce tirage au sort en compagnie de Bernard Chalande. Bonsoir.
Bonsoir.
Et avec nous également Mathieu Schaffner. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Yannick.
Alors, pour commencer peut-être, Bernard, quel regard portez-vous sur ce tirage au sort?
Je dirais que j'aurais imaginé un groupe un petit peu plus, pas facile, mais moins difficile. Non, vraiment, on a là, si quelquefois on a dit que la Suisse, dans les phases de qualification, avait des groupes relativement aisés, cette fois, on va vraiment au-devant d'un très très gros défi. C'est un groupe qui est très très difficile.
Mathieu, vous partagez l'analyse de Bernard Chalande?
Oui, moi je le qualifierais de frais et corsé, ce groupe. Il est frais parce que finalement, on a trois équipes qu'on affronte relativement peu souvent. Le Brésil, il n'y a que 8 confrontations dans l'histoire. La Serbie, il n'y en a aucune. Et puis le Costa Rica, il y en a 2. Et puis corsé quand même, oui, effectivement, ça reste un gros groupe. Le Brésil, tout le monde connaît. Et puis après, derrière, c'est quand même un peu l'inconnu parce que la Serbie, ça fait peur sur le papier. Mais quand on gratte un petit peu plus, on peut se dire que le coup est quand même largement jouable. La Serbie s'est qualifiée, n'a plus de sélectionneur depuis, donc il y a déjà des dissensions internes à régler. Et puis le Costa Rica, qui a fait sensation lors de la dernière Coupe du Monde en étant quart de finaliste, ça sera un morceau à aller chercher, ça c'est une évidence.
Bernard Chalande, affronter le Brésil en ouverture de sa Coupe du Monde, c'est une affiche magnifique, non? Peu importe le résultat dans un premier temps.
Oui, je crois que, c'est un gros adversaire, c'est clair, on peut prendre l'Allemagne ou le Brésil actuellement, c'est les deux de meilleures équipes du monde, c'est évident. Donc c'est un défi extraordinaire pour les joueurs, jouer le Brésil, c'est un rêve de chaque joueur pratiquement. Le Brésil, c'est un mythe, c'est même s'il y a des périodes où le Brésil a été un petit peu moins bon, mais là, c'est vraiment un match extraordinaire. Alors jouer le premier match, c'est intéressant quand même, parce que je veux pas dire que c'est un match qui ne sert à rien, loin de là, mais je veux dire que c'est un match où on ne peut que faire un exploit. si la Suisse venait à prendre des points, un ou trois points contre le Brésil, ce serait un bonus extraordinaire pour la Suisse, pour la Suisse. et si c'est pas le cas, ce sera pas dramatique, parce que la qualification, il faudra aller la chercher contre le Costa Rica et contre la Serbie. Donc c'est un cadeau, c'est un magnifique cadeau que la Suisse s'offre en ce début de Coupe du Monde. Et l'ordre des matchs, je dirais, est bien dans ce sens-là. L'autre aspect pour moi de dire que c'est un groupe terrible, c'est pas seulement dans la première phase, c'est la deuxième phase. C'est ce tirage qui fait que, en étant deuxième du groupe, on risque de tomber avec beaucoup de probabilité sur l'Allemagne. Donc, si l'ambition de la Suisse est d'aller en quart de finale ou plus loin, déjà en huitième de finale, il faudra éliminer l'Allemagne. Donc, c'est là aussi que je dirais que la Suisse a eu un tirage au sort qui n'est pas des plus faciles.
Mathieu, de nouveau, est-ce que vous partagez cette analyse ? Bon, le Brésil, c'est une chose, mais après, il y a aussi la Serbie qui était dans le quatrième chapeau et on est tombé dessus. À mon avis, c'est une équipe solide.
Oui, c'est une équipe solide, mais franchement, quand on regarde un peu sur le papier, c'est quand même pas une équipe imbattable. C'est une équipe relativement vieillissante quand même. Si on prend les noms les plus connus, c'est Ivanovic, c'est Kolarov, c'est Matic, c'est des joueurs qui ont la trentaine, voire plus. Et puis, c'est presque une équipe à l'image de l'équipe de Suisse. Il n'y a pas d'attaquant vedette dans cette formation-là. C'est un peu ce qui manque dans cette équipe. Le problème du sélectionneur, on l'a évoqué, ça restera quand même un sacré souci parce que à 6 mois de la Coupe du Monde, ne pas avoir de sélectionneur, ne pas pouvoir créer une vraie équipe, une vraie osmose, ça peut poser problème. Et puis après, effectivement, affronter le Brésil en ouverture, je pense que c'est clairement positif pour la Suisse. Le Brésil, avec des joueurs qui sont des vedettes dans leur club, qui vont jouer des matchs et des matchs jusqu'au mois de juin, qui risquent pour certains d'être peut-être en finale de la Ligue des Champions, qui vont cramer pas mal d'énergie, si vous me passez l'expression, qui vont pas forcément arriver en état de toute fraîcheur du côté de la Russie. Donc ça peut être un bon à jouer, mais c'est vrai qu'après l'écueil suivant, pour autant que la Suisse termine deuxième, de tomber sur l'Allemagne en huitième de finale, alors là c'est presque le cadeau empoisonné, clairement ça sera un roc, on va pas dire un submersible, mais ça reste un sacré roc.
Alors on n'y est pas encore face à l'Allemagne, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu, Bernard Chalonne, du Costa Rica, cette équipe qui avait surpris son monde il y a 4 ans, en se qualifiant pour les quarts de finale, en sortant aussi l'Angleterre dès le premier tour, qu'est-ce que vous en pensez?
Non, je pense que le Costa Rica, bon, n'appartient pas au groupe de qualification sud-américain, mais c'est quand même football avec la culture sud-américaine. Donc il y a de la vitesse, il y a de la technique, il y a une grosse agressivité et il y avait, c'est ce qui nous avait surpris au Brésil, une organisation parfaite. Je me rappelle très bien, moi je vivais ensuite, j'ai vécu ensuite avec l'Arménie la qualification pour la France et quand j'ai voulu passer à 3 défenseurs ou à 5, enfin cette façon de défendre, j'ai pris le match des matchs du Costa Rica qui avait défendu parfaitement à 5 défenseurs, enfin 4 plus un toujours avec un toujours un défenseur qui sortait, etc. Donc cette équipe avait une culture tactique aussi très très développée et elle sera certainement, elle a continué dans cette voie, elle s'est de nouveau qualifiée. Donc c'est une équipe qui sera difficile à manœuvrer pour la Suisse, même si elle a un petit nom entre guillemets dans le monde du football. C'est un adversaire vraiment qu'il faudra bien étudier et il faudra trouver des solutions pour les contourner et surtout pour ne pas tomber un petit peu dans le piège parce qu'ils sont très très forts en rupture, ils sont très très forts dans la phase offensive aussi, ça va très très vite et il y a de la qualité technique. Donc c'est un adversaire en tout cas pas à sous-estimer. La Serbie, vous l'avez dit, je suis tout amplement d'accord aussi. Les Serbes, comme joueurs individuellement, ont une très très bonne équipe, ont vraiment beaucoup de potentiel. Faut pas que je dise une bonne équipe, parce que c'est justement là le problème. Je les ai rencontrés avec l'Arménie. C'était ces joueurs-là, Kolarov, Matic, Ivanov, etc. Donc des stars, Tosic, et des stars individuellement, des stars dans leur club très souvent, mais comme équipe, on a rien vu. On avait fait match nul avec l'Arménie et ils avaient égalisé à la 92e. Donc c'est une équipe qui, pour le moment, c'est pas une équipe. Et de nouveau, ils ont des travers puisque.
Ben je crois qu'on a perdu Bernard, oui.
Dans
un tunnel, probablement. Ben écoutez, de toute façon, on est au bout de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi Cap Sport. Très belle fin de soirée. Et à vendredi prochain.